vie, je dis oui.
Bonjour, vous êtes bien sur Zoom Écologie 106.3 FM. C'est une émission qui parle d'environnement et de liberté. Et qui, comme vous l'aurez, comme vous allez le deviner, va parler d'un seul sujet, un et deux sujets. Une petite intro que j'ai nommée Opération César. Pendant que nos animateurs s'installent. C'est bon, vous avez du son impeccable ? Voilà, c'est parti. Alors, une petite intro que j'ai appelée Opération César. Ça va vous mettre sur la voie. Alors, nous sommes en 2012, après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les financiers romains. Toute ? Non. Car un village peuplé d'irréductibles gaulois zadistes résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires financiers romains, des camps retranchés de Vinci Aurum, Bancarium, UMPS Danum et surtout, Héros Bonhomme, Petit Bonhomme. Ce village de zadistes gaulois et autres nationalités, à côté de l'Armorique, résiste à l'envahisseur grâce à la potion magique préparée par les druides de la forêt de Roanne, qui procure momentanément une force de résistance surhumaine et de bonne humeur à quiconque en boit. C'est du véridique. Il suffit d'aller sur place pour en boire et vous verrez. Voilà, voilà. Je pense que vous allez commencer à comprendre quand on va vous parler de Notre-Dame-des-Landes, de la situation qui se passe là-bas. Et tout de suite, pour continuer l'émission, je passe le micro à nos animateurs, à Cyril et Rebecca, qui vont nous parler de tout ça.
Salut.
Oui, bonsoir.
Donc, alors,
on a arrêté le début de l'émission parce que Yohan a oublié de monter le son. Donc, je ne sais pas si on vous a présenté notre émission. C'est Zoom Écologie. C'est une émission qui se passe tous les jeudis soirs sur Radio FPP à 20h30. Et c'est rediffusé le...
mardi matin.
Voilà, mardi matin, très tôt, si vous avez raté l'émission. Donc, nous, on est l'équipe La Bande à Bébert. C'est l'équipe qui fait toujours le dernier jeudi du mois. Et voilà, on est un petit peu petit ce soir. Il y a Cyril et moi, Rebecca et Johan à la console. On est une équipe qui tourne. Ce soir, on a notamment le grand sujet de l'actualité. Donc, on voudrait vous passer beaucoup d'informations là-dessus parce qu'on a aperçu qu'il ne se passe pas grand-chose dans les médias courants. Vous n'avez pas beaucoup d'informations. Donc, on va voir en direct une personne qui est sur la zone à défendre, le ZAD notamment, qui va nous expliquer un peu ce qui se passe là-bas dans la lutte pour défendre la zone qui est prévue pour être le futur grand aéroport de la région de Nantes.
Voilà, et puis tu vas nous parler aussi. D'abord, on va avoir un invité. Peut-être tu peux présenter le sujet qui va nous appeler dans quelques minutes.
Un petit peu avant, on va avoir une invitée par téléphone qui va nous parler d'une mobilisation qui se fait en ce moment sur Paris, notamment, qui s'appelle les reposeurs. Donc, on va savoir tout à l'heure ce que ça veut dire.
Voilà, et donc bien sûr, on va parler très largement de Notre-Dame-des-Landes. On aura vers 21h quelqu'un de l'équipe automédia de la ZAD. Notre-Dame-des-Landes, on en a déjà pas mal parlé dans plusieurs émissions et dans plusieurs émissions sur la radio aussi. Pour ceux qui écoutent le mardi, on a déjà eu des copains sur place. Pour commencer, c'est quoi Notre-Dame-des-Landes ? C'est un petit bocage nantais, de la campagne nantaise, où effectivement l'État veut construire un aéroport. C'est un vieux projet d'il y a 40 ans, qui est pensé avec l'État d'il y a 40 ans, c'est-à-dire où on s'imaginait à l'époque que la croissance pouvait être infinie, que le pétrole... elle est infinie aussi. C'est un projet qui était prévu pour le Concorde. Bon, hein, on voit ce qu'il est devenu. Il y a eu donc une lutte des paysans qui dure depuis 40 ans pour préserver leurs terres. Et il y a surtout déjà un aéroport à Nantes qui est pas saturé, qui est même un bon aéroport. Alors après, il y a le problème des avions qui passent au-dessus de Nantes, mais ça, il y a des techniques et des alternatives que de construire un nouvel aéroport. Alors après, cet aéroport, c'est un projet qui est pharaonique, deux pistes, qui mise vraiment sur une augmentation dans les années qui vont venir du trafic aérien, alors que le pic de pétrole et le changement climatique nous inciterait plutôt à essayer de réduire au moins le nombre d'avions qui passent. Et en plus de ça, il est construit déjà sur des terres agricoles où des gens vivent quand même, à qui on dit « dégage, on aménage ». Ça, c'était le titre d'un bouquin qui était sorti un peu au début de cette lutte. Hein. On peut retrouver tout ça sur le site de la CIPA, donc, qui est l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par l'aéroport. Donc, le site, c'est acipa.free.fr. On peut y retrouver pas mal d'infos et d'historiques sur cette lutte-là. Le projet a été enterré pendant une période. Dans les années 90, on n'entendait plus trop parler. L'État qui avait racheté petit à petit beaucoup de terrains, soit parce que quand un agriculteur décédait, soit quand des gens partaient pour raison X raison, l'État avait racheté pas mal de terrains sur la zone. Et donc, en attendant de savoir quoi en faire, puisque le projet était un peu enterré, les louer à des habitants. Donc, il y avait des fermes, des maisons louées qui appartenaient à la région. Au début des années 2000, sous un gouvernement socialiste, le projet a été relancé avec un certain monsieur Jean-Marc Ayrault, qui est premier ministre maintenant et qui était avant... député maire de Nantes depuis toutes ces années et qui a soutenu le projet bec et ongle contre ses opposants. Ça a été une de ses grandes lubies. Alors pas seulement, hein, puisque l'UMP est aussi pour ce projet, ce qui fait qu'effectivement pour les opposants et pour les populations, s'y opposer est très difficile puisqu'on connaît, en France comment se partage le pouvoir politique.
Si je me permets d'interrompre, c'est un projet qui a été soutenu donc par les deux côtés, le gauche et la droite.
La gauche et la droite. Ouais.
Et au niveau des personnes autour de Nantes, est-ce que c'est un projet qui est soutenu globalement par les populations?
Alors, il y a des maires qui sont pour, il y a des maires qui sont contre, il y a une association d'élus locaux, aussi bien au conseil régional que des maires qui sont soit opposés au projet, soit parce qu'il y a une association d'élus qui doutent du projet, de l'intérêt du projet.
Il y a toujours eu aussi cette lutte sur place, des gens qui s'opposaient. Et puis il y a surtout
cette lutte des habitants qui veulent garder leur terre, leurs exploitations.
Il y a même eu cette grande manifestation qui est allée jusqu'à Paris.
Ah, il y en a eu plein. Il y a eu des manifestations à Paris, à Nantes, avec beaucoup de tracteurs. C'est une longue histoire de lutte et il y a eu beaucoup de manifestations. En 2009, il y a eu un camp climat qui était une première en France, qui était inspiré de ce qui s'était plutôt fait en Angleterre, y compris justement contre un agrandissement d'aéroport. Donc sur ce camp climat, l'idée c'était un peu pendant une semaine de résistance de venir occuper des terrains là-bas, découvrir un peu cette lutte, découvrir un peu ce bocage et sa diversité. Et puis essayer de vivre pendant une semaine avec des pratiques respectueuses de l'environnement. Et puis de lutter aussi contre le projet. Donc suite à ce camp climat, une occupation a été lancée, soutenue et appuyée par les agriculteurs. L'idée, en fait, c'était d'occuper les maisons qui étaient, pour le coup, vides depuis des années, de les occuper, de les retaper et puis de cultiver. Et donc les gens, depuis 3 ans, ont occupé les maisons, ont construit des potagers collectifs, ont, ont appris à faire leur fromage, leur lait, leur pain sur place eux-mêmes et vivent en bonne harmonie avec, avec les agriculteurs. Alors après, évidemment, sur le principe d'occupation et tout ça, il y a pu y avoir des dissensions ou des incompréhensions ou même des conflits, mais globalement, tout le monde était dans la lutte et ça, c'est toujours resté. Donc depuis une semaine, effectivement, il y a cette opération César avec 1200 gendarmes, CRS, hélicoptères, des moyens. Donc là, on en est à peu près entre 500 000 et 1 million d'euros déjà de coûts, rien que pour déplacer tout ça et organiser tout ça et mettre les flics dans des hôtels et compagnie. Et donc, les gens ont été expulsés, massivement gazés. Ils ont résisté. Ils ont pu tenir encore des lieux. Ça s'enlise un peu. Enfin, ça s'enlise même pas mal. Et aujourd'hui, il y a une conférence de presse avec 11 associations, dont Greenpeace, Agir pour l'environnement, Solidaire, Paysages de France, Droit au logement, Confédération Paysanne, Les Amis de la Terre, le réseau Action Climat France, Attaque, Agir pour l'environnement, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, qu'on fait une déclaration solennelle et qu'on fermement demandé à Jean-Marc Ayrault d'arrêter les expulsions et d'abandonner le projet. Voilà. Donc on peut retrouver, on va avoir bientôt un appel là. Voilà, je crois qu'il arrive, donc on va passer tout de suite au sujet et on reviendra sur Notre-Dame-des-Landes dans un quart d'heure.
Voilà, donc tout de suite, là, on a au téléphone, donc on change un peu de sujet pour revenir sur Paris brièvement. En ce moment, depuis à peu près une dizaine de jours, il y a eu des actions pacifiques, bien sûr, et non destructeurs. Envers le sujet de la publicité, notamment dans le métro, mais surtout dans l'espace public. Donc, on a en ligne, je crois, un certain Simon, un citoyen qui a décidé de rejoindre le mouvement. Vous êtes là, Simon ?
Oui.
Oui, bonsoir. Voilà. Donc, on a suivi un petit peu par le biais des camarades ce nouveau mouvement. Il y a eu, bien sûr, d'autres luttes contre les publicités depuis un certain temps. Qu'est-ce que c'est donc votre mouvement, les repousseurs ? Enfin, ce n'est pas le vôtre, mais auquel vous participez. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Eh bien oui, moi c'est un mouvement que j'ai découvert sur Internet après avoir lu un article dans le journal 20 minutes. Et j'ai adhéré tout de suite à la logique non violente qui est mise en œuvre par les gens qui ont proposé cette action. Ce qui est proposé, c'est en fait, de ce que j'ai compris, un nouveau moyen d'expression pour les personnes qui sont opposés à la publicité qu'on a dans les métros et qui, contrairement au mouvement qui existait jusque-là, est non dégradant et donc nous permet de dire à quel point on n'aime pas la pub sans avoir la peur du gendarme et sans risquer de procès.
D'accord, parce que donc ça s'oppose à certaines tendances qu'il y a eu dans le passé à dégrader carrément les panneaux publicitaires, enfin même beaucoup de fois avec de l'humour. Mais qu'est-ce que c'est la particularité de...
Ce qui a l'inconvénient aussi de déclencher tout un tas de procès et tout ça. Donc là, c'était une façon un peu d'essayer autre chose sans ces risques-là.
Donc quelles sont les techniques que vous utilisez qui justement sont qui sont moins dangereuses par rapport aux problématiques de procédure et comment vous arrivez à faire passer votre message ?
Tout d'abord, je trouve pas que ce qui est proposé par les reposeurs soit en opposition avec ce qui existait avant.
C'est ça, oui.
Par exemple, je me retrouve tout à fait dans les revendications qui sont portées par les reposeurs sur lesquelles je reviendrai ensuite. Mais donc, ce qui est différent, c'est qu'au lieu d'écrire directement avec de la peinture sur les publicités ou au lieu de fracasser les écrans de télé avec une masse, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare dans notre coin des papillons repositionnables avec des marqueurs en mettant les slogans qu'on a envie dessus. On peut photocopier des feuilles A3 ou A4 au bureau en ayant récupéré un ou deux slogans devant et en l'ayant écrit à la main. En allant rencontrer les autres reposeurs tous les soirs à la Sorbonne entre 18h et 20h, on peut mettre la main sur des prototypes d'affiches en 50 par 70 cm, ce qui est une des revendications dont je parlerai. Et il y a même, pour ceux qui ont la place, l'envie et la peinture, la possibilité de dérouler sur 4 mètres de long un grand calicot de papier craft, ce qui est une qualité de papier particulière, et d'y peindre dessus un slogan qui peut ensuite être apposé sur une affiche tenue à l'aide de rubans adhésifs et qui, prenant toute la largeur de l'un des monuments publicitaires face desquels on tombe sur les quais, permet de faire passer un message de manière claire. Toutefois, si un agent observe la pose des papiers en question, il est en droit de demander la carte d'identité, ça c'est une chose, on lui tend, on est souriant, de toute façon on assume, et il est en droit de demander à ce qu'on retire les papiers. Très bien, pour peu qu'on ait choisi judicieusement son ruban adhésif, on tire délicatement de manière à ne pas arracher le moindre bout du support et on a retiré ses affiches sans rien dégrader, donc on ne peut rien nous reprocher.
D'accord, et donc vous faites ça publiquement devant les gens, devant les agents, volontairement, ou est-ce que vous faites ça un petit peu en cachette ?
On fait ça sans se cacher, sans craindre des caméras, devant tout le monde, il n'y a pas de souci. Évidemment, quand il y a des agents de la RATP, on fait attention, on ira décorer ailleurs. Le fait est que recouvrir les publicités, c'est quand même, ils sont en droit de demander à ce qu'on enlève les papiers qu'on pose. Mais généralement, par contre, quand on déroule un grand calicot de 4 mètres de long sur un quai, c'est l'événement, le temps qu'on colle des papillons dessus. Généralement, on a plein d'encouragements de gens qui disent « C'est très bien, vous faites !» Et on a juste envie de leur répondre « Oui, faites-le aussi !»
Ah, donc tout le monde vous applaudit, vous avez du soutien de tous ceux qui se trouvent à côté, le public ?
Alors, des applaudissements, non. Moi, personnellement, par contre, oui, il y a des gens qui encouragent. Je me souviens d'une personne un peu âgée qui nous disait, alors qu'on venait de coller un grand papier avec marqué « La pub pollue nos rêves », cette personne nous disait « Mais pas seulement, la pub, ça pervertit les gens, ça pervertit, il faut le mettre dans votre message. » Oui, mettez-le dans les vôtres, très bien. Mais...
Donc en fait, votre action, le fait que vous le faites devant les gens, ça sensibilise les personnes qui sont justement en face des publicités toute la journée à ce que ça soit pas normal. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont d'accord avec cette chose que vous faites. Et que, donc,
déjà avant, d'ailleurs, il y a eu plusieurs sondages qui sont parus chaque année, en fait, pour faire état du fait que une majorité assez large de franciliens sont opposés à la publicité telle qu'elle est aujourd'hui dans le métro. Et sur le site web des reposeurs, moi j'ai trouvé donc un sondage qui, commandé par eux, fait état de 57% de franciliens favorables à la réduction des affichages publicitaires actuels à une taille de 50 par 70 cm. Par affiche. C'est d'ailleurs la revendication principale des reposeurs qu'on trouve sur le site. Ce serait tout simplement de demander à ce que soient décrochés tous les affichages actuels. Et il y aura un peu de boulot dans la mesure où en fait il y a moins d'espace de murs visibles que d'affiches en fait quand on parcourt les couloirs. Mmh. D'enlever tout ce qu'on y trouve et de remplacer ces en moyenne, j'ai lu 144 mètres carrés d'affiches par quai par 4 panneaux de 2 mètres carrés chacun, maximum, tapissés d'affiches n'excédant plus 50 par 70 cm. Et en fait, cette idée, j'ai été demander aux gens de la Sorbonne d'où elle venait, parce que j'ai trouvé ça un peu saugrenu. Je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas juste dit un A3, qu'est-ce qu'ils ont été choisir un format encore particulier. Et le fait est que c'est le format imposé aujourd'hui aux associations à but non lucratif dans la ville de Paris. Il y a un règlement spécifique qui dit les assos, c'est 50 par 70 et puis c'est tout. D'ailleurs, je vous mets au défi de me dire où est-ce qu'il y a un affichage autorisé pour les associations à Paris. Hein. Cherchez bien, a priori, il y aurait 4 mètres carrés pour toute la ville. Bon, mais on a été capable de réfléchir à une dimension raisonnable pour des organismes socialement utiles. Et bah, si c'est pour du prêt-à-porter, de l'alcool ou d'autres idioties, là, on se lâche, c'est des affiches plus grandes que, comme le disait le DAL, la moyenne des appartements des étudiants à Paris, 12 mètres carrés d'affichage et répété à l'infini. Moi, je demande juste qu'ils soient, en fait, bah, sur un pied d'égalité. Pour ça, il n'y a pas de doute, je me bouge. Si on avait des affichages associatifs dans les caves, ce serait super.
D'accord. Et donc, une autre question, donc, si je comprends bien cette action, ça ne dure que 2 semaines, c'est ça, jusqu'au 26 octobre. Et ça, pratiquement, on y arrive pratiquement. Vous avez déjà la possibilité de faire un petit bilan de ce que vous avez réalisé. Est-ce que ça a été... qu'est-ce que vous en dites sur cette courte période d'action? Et pourquoi vous arrêtez d'ailleurs? Manque d'énergie?
Eh ben, moi, personnellement, vu que je suis convaincu par le procédé, je vais pas m'arrêter de faire des papillons. Je vois bien que sur le site, les reposeurs, ils ont dit on fait un truc de 2 semaines, et puis soit ça a marché et c'est bien, soit on reviendra avec une autre idée. L'un des objectifs, visiblement, c'était de faire connaître le moyen. Après, moi, à titre personnel, je ne vais pas m'arrêter à ça.
Vous avez pris goût.
Oui, et je faisais déjà d'autres actions anti-publicitaires qui étaient peut-être un peu plus risquées avant. Là, peut-être même que en fait, je me ramollis un peu, mais je trouve que c'est un bon moyen d'exprimer...
C'est toujours continuer à agir quand même. Quoi.
Mais concrètement, est-ce que vous avez donc présenté une pétition ou quelque chose envers les personnes et les institutions qui sont capables d'agir en matière de publicité, la taille des affiches, etc. Comment vous allez continuer? Comment vous allez pouvoir savoir si ça a eu un effet concrètement sur ce que nous subissons tous les jours comme publicité?
J'ai en tête l'exemple du clan du néon. C'est des gens sur Lyon qui se sont dit qu'ils en avaient marre d'avoir des devantures de magasins éclairées la nuit alors que la boutique était fermée. Mm-hmm. C'est limite dangereux. D'ailleurs, on voit une pharmacie de loin, on s'approche et c'est pas la pharmacie de garde. Elle était allumée quand même. Il n'y a aucune raison, mais elle est fermée. Et ces gens-là, ils se sont baladés dans la rue avec des perches et un cintre tordu au bout. Ils se faisaient la courte échelle pour accéder à un interrupteur qui est présent devant toutes les boutiques. À partir du moment où il y a un affichage avec des néons devant, il y a un interrupteur pour l'éteindre. C'est la loi, c'est obligatoire, parce que comme ça, quand les pompiers viennent éteindre l'incendie, ils coupent le courant avant de s'électrocuter. Et ils passaient dans la rue le soir, dès qu'il faisait nuit, pour éteindre toutes les devantures de boutiques qui étaient fermées, en laissant un papier au propriétaire de la boutique pour lui dire vous gaspillez plein d'énergie pour rien et de toute façon, quand votre boutique est fermée, personne n'y gagne. Et il proposait un site joyeux avec des perruques et tout. Moi, je l'avais fait avec Sortir du nucléaire sur Paris, c'était marrant. Et ceux qu'on prenait pour des joyeux de riz 6 mois avant, une fois le Grenelle de l'environnement vu, c'est tout simplement ceux qui ont écrit la loi. Et aujourd'hui, il est interdit pour les boutiques d'avoir une devanture éclairée le soir du soir du matin à 6h, si la boutique est fermée. Du coup, comment on mesurera l'action des reposeurs si elle fonctionne? Moi, ce que je leur souhaite, c'est qu'ils aient le même succès et que soit le président de région qui a été interpellé dans la pétition que j'ai signée, soit... je ne sais plus, il y avait la personne du STIF et puis tout simplement le publicitaire. S'il y en a un des trois qui a un sursaut de conscience, qui se rend compte de l'aberration et qui a envie d'avancer sur quelque chose de concret, dans ce cas-là, ça aurait été un succès.
Et donc, vous parlez d'une pétition, c'est sur le site des reposeurs ou est-ce qu'on peut y avoir accès si on a envie de soutenir cette...
Moi, je l'ai trouvé sur le site. Il y a des petites boîtes sur la droite du site quand on arrive. Il y a 4 petites boîtes et une des boîtes, c'est la pétition.
Donc, le nom du site, c'est Les Reposeurs?
C'est Reposeurs sans article au pluriel, reposeurs avec un S au bout, .eu.org.
D'accord. Merci beaucoup. Et bonne continuation. On avait déjà fait une émission sur la publicité plus en profondeur et donc on a bien sûr expliqué à quel point la publicité est étroitement liée à l'environnement, dans tout ce que ça encourage, de surconsommation, les dispositifs qui utilisent beaucoup d'énergie, etc. etc. Donc si vous voulez réécouter cette émission, vous allez la retrouver sur notre site internet zoom-ecologie.org, c'est ça ? Ou net ?
Net.
Net, voilà. Donc là, vous allez retrouver toutes les anciennes émissions.
Sur cette question-là, c'est une tribune qui était parue dans Le Monde en juin cette année, en marge d'un procès des déboulonneurs, et qui faisait état d'une étude scientifique de chercheurs en sciences cognitives, une bonne dizaine, et qui expliquait clairement que la publicité altère de manière durable nos comportements d'achat et même de manière inconsciente. Alors évidemment, c'est l'objectif de la pub, donc ça fait bizarre de se l'entendre dire, mais c'est mesuré de manière scientifique, et quand bien même on se dit « moi je la regarde pas la pub, ça me glisse dessus, je m'en fous », eh ben il est prouvé scientifiquement que non, on est atteint quand même, et durablement.
Voilà, bon bah très bien. Okay, quand on va se retrouver fauché, on pourrait peut-être un jour se retourner contre ces sociétés pour notre difficulté financière grâce à... Après, à ce qu'on a subi inconsciemment.
Voilà, il y a des petites...
On fait une taxe de 15% sur voilà. Tout ce qu'on achète, et au lieu d'enrichir l'État, ça enrichit les grands patrons. Il y a dans tout ce qu'on achète 15% qui correspond au budget pub qu'il fallait pour que ce truc soit vendu. Et si on en était débarrassé, la société serait juste plus saine, parce qu'elle fonctionnerait sans cette taxe.
Si on était débarrassé des grands patrons aussi, peut-être.
Rapide comme solution, clairement.
Et bah écoute, on te remercie et puis on va être obligé peut-être de libérer la ligne parce qu'on attend un appel de nos camarades qui défendent vaillamment sur des barricades de briquet de broc sous la pluie et la boue depuis une semaine face à 1600 gendarmes et CRS.
Donc
voilà.
Merci Simon. À bientôt.
Salut. Ouais, et peut-être, je sais pas, Johan, si tu peux nous mettre un petit peu de musique en attendant l'appel qui, j'espère, va arriver.
Voilà.
Je vous propose la piste 3 de la compilation.
Voilà, ouais, on va écouter une petite chanson sur Notre-Dame-des-Landes qui est sur une compile qui est au profit de la CIPA, donc qui est cette organisation des populations qui s'opposent à ce projet d'aéroport.
On ne mesurait pas la chance et le bonheur que nous avions de voir passer de gros avions sur nos têtes sans manigance. S'envoyer en l'air ne me gêne, sauf que tous ces gars-là ils prônent afin d'atterrir une zone très plate plutôt qu'hérosène. T'auras pas la terre, elle est nécessaire, son état fertile ne tient qu'à un fil. Monsieur, dans ta main, tu louves pantin, t'es sûr que ton avion, c'est pas du carton. Tous ces gros oiseaux sans plumage, aux chants tristes et assourdissants, observe de là-haut les champs où pondre leurs œufs sans dommage. Ils ont piqué comme à la guerre sur nos nids douillets et du coup on les voit comme des coucous violer tout l'espace populaire. T'auras pas la terre, elle est nécessaire, son état fertile ne tient qu'à un fil. Monsieur, dans ta main tu pantin, t'es sûr que ton avion, c'est pas du carton. Pour inventer l'avenir du monde, on peut consulter des experts, mais on aurait des futurs pères, sans doute la terre serait plus ronde. Tout ça pour tirer les ficelles du transit international. Mais le transit intestinal est une fonction plus essentielle.
sauvera pas la terre, elle est nécessaire, son état fertile ne tient qu'à un fil. Monsieur, dans ta main, tu nous veux pantin. T'es sûr que ton avion, c'est pas du carton. Mais à la guerre économique, c'est comme avec celle des canons. C'est nous qui sommes toujours au front, les sans-grades de la République. À force de courber les chines, le souffle est trop court pour chanter. Mais le rythme est là, écoutez, vos cœurs battre dans vos poitrines. T'auras pas la terre, elle est nécessaire, son état fertile ne tient qu'à un fil. Monsieur, dans ta main, du nouveau pantin. T'es sûr que ton avion, c'est pas du carton. Vigneux et Treillères, Grand Champ des Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, faut qu'on vous entende. Monsieur, dans ma main, j'ai celle du voisin, qui elle-même taquine celle de la voisine. La 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 la.
Voilà, bah donc on vient d'entendre cette très belle chanson sur Notre-Dame-des-Landes. Les terres Vinci de ne doit pas les avoir. L'état fertile de la terre ne tient qu'à un fil et Vinci bétonne la terre à différents endroits de la planète. On peut parler du cas de la forêt de Khimki aussi. Donc là, c'est en Russie où Vinci est sur un chantier pour construire une autoroute qui dévaste une forêt aussi, tout ça toujours pour la même chose, aller plus vite, plus loin. Et donc il y a une contestation sur place. Et bon, bah, évidemment, c'est en Russie très difficile. On voit que c'est pas marrant en France, mais bon, là-bas, c'est encore autre chose. Donc quand même, avant que nos amis de la ZAD nous appellent, on doit avoir quelqu'un normalement qui est sur l'automédia. Faut savoir que face évidemment au peu de couverture et puis quand c'est pas pour répéter les articles de la Pref, parce que non seulement il n'y a pas beaucoup d'infos, mais on voit souvent des articles où c'est les informations qui sont données par la préfecture qui sont relayées et pas autre chose. Donc face à ça, l'automédia, c'est un peu ce qu'on fait nous ici à FPP, c'est de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, c'est de donner la parole aux gens qui sont en lutte. Et la seule moyen, c'est de le faire nous-mêmes. C'est le principe d'un automédia. Voilà, je crois qu'ils arrivent, je comblais un peu. mais tout ça, c'est important parce que ils ont fait un gros travail eux pour. Ils ont fait un gros travail eux pour relayer les infos, pour qu'on sache ce qui se passe sur place. Et c'est très important parce que c'est aussi qui a pu déclencher des réactions, de la solidarité, etc. etc. Allô ?
Allô, oui, bonjour.
Salut.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Donc, on est passé par le contact presse, l'automédia.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc j'étais en train de dire que tout le boulot qui est fait là sur le site zad.nadir.org, c'est vraiment super parce que c'est vraiment très important que les informations puissent circuler. Mm-hmm. Et c'est pas avec les médias officiels qu'on pourrait savoir ce qui se passe. Donc d'abord, c'est une première chose, c'est que là, moi, je veux vous dire un grand bravo pour tout ce boulot qui a été fait.
Bah, merci beaucoup.
Ouais. Oui, on suit attentivement.
Alors, je me rends pas bien compte. Je sais qu'il y a, il y a beaucoup de soutien des habitants, des agriculteurs sur place. Je me rends pas bien compte de dans quelles conditions vous faites l'automédia. Je sais pas si c'est utile. utile d'en parler ou pas, parce que évidemment, faut garder des choses un peu sous le coude, quoi.
On va effectivement pas rentrer dans les détails. On a appris aujourd'hui que dès le jour d'après les expulsions, l'État français avait fait une requête à l'hébergeur de notre site internet pour savoir qui on était et qui était l'administrateur. Donc voilà, il y a une volonté politique claire de vouloir nous faire taire, ouais. Et je pense qu'ils vont pas y arriver facilement.
Ils ont tenté d'autres coups comme ça, hein. Ils sont plutôt passés pour des imbéciles qu'autre chose, et puis généralement ça a fait encore plus de buzz qu'autre chose, mais bon, je pense qu'on a un peu parlé un petit peu avant que t'appelles, on a un peu rappelé ce qui se passait là-bas. Donc là, vous êtes quand même assaillis par des centaines et des centaines de gendarmes mobiles, de CRS, d'hélicoptères. Je sais pas, peut-être on pourrait avoir un peu vos impressions sur place, savoir comment vous faites pour tenir, pour résister sous la pluie, dans la boue et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça assez incroyable. Je dois avouer que mercredi soir, moi, j'y croyais plus vraiment. Là, je pensais que c'était fini. Vous êtes encore là-bas, bravo, quoi.
Mais c'est ça qui nous fait tenir, en fait, l'idée d'être des mauvais perdants et de pas du tout avoir envie de se dire que simplement d'envoyer l'armée pourrait suffire à nous faire taire. Et puis, il y a le fait qu'ils ont détruit beaucoup de maisons. On a fait le compte tout à l'heure, ils ont détruit 8 maisons. Et quand on dit détruit... C'est détruit, c'est-à-dire ils ont détruit et tout enlevé. C'est comme un espèce de truc super négationniste du « non, cette maison n'a jamais existé, il reste plus une brique, plus une planche après leur passage ». Mais quelque part, c'est un petit peu une forme de respect de faire ça, parce qu'ils savent que la moindre planche qu'ils vont nous laisser, elle resservira à reconstruire quelque chose. Alors, sur ta question sur le comment on fait, eh ben, on est accueillis par des voisins et des voisines, et tous les jours, on a des propositions d'hébergement qui tombent, il y a des gens qui passent pour nous dire, c'est formidable ce que vous faites, si vous avez envie de vous reposer 2 jours, 3 jours, venez chez moi. Et finalement, ça nous a permis de créer des liens avec nos voisins et voisines de manière accélérée. Et il y a aussi un lieu qui était un lieu associatif lié à la CIPA, qui est l'une des associations un petit peu citoyennistes qui est en lutte depuis longtemps contre ce projet d'aéroport. Et au début, ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à nous héberger 4-5 jours, le temps qu'on rebondisse. Et puis maintenant, ils nous ont dit qu'en fait, tant qu'il y aurait une occupation militaire de la zone, on était les bienvenus chez eux. Et ça nous fait un espèce de grand quartier général où afflue... les ravitaillements, les messages de solidarité, les gens qui passent pour s'informer.
On ne va pas vous demander aussi exactement, on ne va pas divulguer les secrets de votre campagne. Bon, ils peuvent le savoir.
Ils s'avouent, hein, c'est la vacherie, c'est un haut lieu de cette lutte. Bon voilà, simplement, c'est pas du tout expulsable pour le coup, la vacherie.
C'est pas encore expulsable.
Pour le moment, oui.
Mais si j'ai bien compris, il y a aussi eu des interventions par les forces de l'ordre dans des zones qui sont non expulsables pour l'instant.
J'ai pas entendu ta question.
J'ai entendu dire qu'il y avait quand même des endroits, des caravanes notamment, qui étaient sur des zones qui n'étaient pas pour l'instant expulsables, mais les forces de l'ordre les ont quand même, ils ont enlevé certaines habitations qui étaient là, des caravanes notamment. Donc, vous ne vous sentez pas quand même en danger, même dans ces zones qui sont en dehors de la ZAD ? Ou est-ce que vous...
C'est pas que c'est en dehors, hein, c'est qu'il y a des terrains qui, pour l'instant, sont expulsables officiellement, d'autres pas encore.
D'accord.
Mmh. Alors, sachant qu'en fait, quasiment les dernières maisons qui ne sont pas expulsables sont à partir du samedi 27 octobre.
C'est ça, ouais.
Donc il y a 3 dernières maisons, la Saulce, la Rosier et la Sécherie, qui sont expulsables à partir de samedi prochain. Et on imagine à peu près ce qu'ils veulent faire avec ces maisons. La Sécherie, pour vous donner un exemple, c'est un corps de ferme dont une partie était squattée et l'autre partie était habitée par des voisins à qui on était liés, Paul et Marie-Thérèse. Et qu'on cédait un petit peu à la pression financière de Vinci, et qui sont partis la rage au cœur il y a quelques semaines. Et comme Vinci avait peur qu'on réoccupe cette maison, ils l'ont détruite. Donc elle fait partie de ces maisons qui ont disparu, dont il ne reste plus une seule pierre. Et à chaque fois qu'on rouvre une maison, à l'heure actuelle, ils envoient un dispositif militaire super impressionnant pour la reprendre et la détruire. Mais en fait, comme ils continuent à vouloir vider la zone, bah, des maisons qui vont se libérer, il va y en avoir d'autres. Et
il reste combien de maisons encore qui sont encore habitables sur la zone?
Eh ben, il y a ces trois-là qui sont pas encore expulsés, et puis il reste encore quelques maisons dont les procédures vont tenir un petit peu plus longtemps. Mais c'est peu de choses, hein. C'est-à-dire que l'objectif avoué...
Bah, ça fait longtemps, de toute façon, qu'ils cherchent à vider la zone, hein. C'est un truc qui dure depuis des années.
Bah, ça fait longtemps qu'ils en rêvent, mais c'est la première fois, en fait, qu'ils lancent des expulsions. Ouais. En fait, il n'y avait aucun lieu sur la ZAD qui avait été expulsé. Aucun. Absolument aucun. Et donc là, ils ont vraiment décidé de faire les choses en grand. Et l'objectif du préfet, il était clair, il l'a annoncé, c'est de réduire au minimum les capacités illégales d'hébergement sur place. Voilà. Donc en gros, c'est un petit peu une reconnaissance de notre ténacité, parce qu'en fait, il admet qu'il n'est pas capable de sécuriser assez la zone pour nous empêcher de rester dessus. Et juste, il a envie qu'on passe un hiver à chier, quoi. Il l'a dit clairement, il a dit on espère qu'avec l'hiver et la pluie et le froid, qu'ils vont partir, en fait, quoi.
Ouais, j'ai même vu un article là aujourd'hui où il est même encore un peu plus violent que ça, puisqu'il a carrément dit qu'il fallait nettoyer la zone de ces terroristes. Voilà, hein, ça a été dit. Hein. Il a demandé, parce qu'apparemment, il a fini par recevoir les... je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est les élus qui doutent du projet, là.
Ouais.
En plus, il leur a carrément demandé qu'ils les aident à ça, quoi. Donc... là-dessus, ça les a fait un peu rire, parce qu'on sait qu'ils sont plutôt solidaires avec vous, et puis il leur a fait savoir que, enfin, ouais, ils en ont un peu rigolé. Et la discussion, ça portait aussi un peu sur apparemment la manif de réoccupation auquel appelle bah, la CIPA et aussi. Apparemment, le préfet menace de l'interdire.
on va pas la déposer en préfecture, on le fait parce qu'on le croit juste et on se préoccupe pas du tout
sinon vous seriez pas là déjà depuis 3 ans, hein, c'est évident. Ce que j'ai trouvé assez inquiétant, c'est que bah, ça se passe pas comme ils voudraient vraiment, et du coup, ils durcissent le ton, et là, ça y est, vous êtes carrément des terroristes, quoi. Ça fait un peu peur, quoi, mais bon. Alors, à côté de ça, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a des réactions qui commencent un peu à arriver, et notamment, là, il y a eu une conférence de presse cet après-midi dans les bureaux de Greenpeace à Paris. Donc, il y avait Greenpeace, il y avait ATTAC, il y avait Agir pour l'environnement, Raison Action Climat, Les Amis de la Terre, Confédération Paysanne, Génération Future, Solidaire, Paysage de France, Droit au Logement, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Ouais, voilà.
Donc,
qui ont fait une déclaration donc à 11 associations qui ont condamné. Je vais te lire le texte parce que tu m'as dit que tu n'avais pas eu l'info encore. Déclaration solennelle, la brutalité employée par la force publique en vue d'expulser à la veille de la trêve hivernale les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes nous amène à protester officiellement, collectivement et vigoureusement. Alors que nous estimons que le dialogue et la concertation sont une nécessité pour dépasser les crises écologiques, sociales et économiques, le déploiement de forces auxquelles nous assistons actuellement à Notre-Dame-des-Landes ne fait que renforcer notre détermination à contester ce projet d'infrastructure inutile, coûteux et clairement contradictoire avec nos objectifs en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Sur la forme comme sur le fond, ce projet d'aéroport est contestable. Au scandale écologique de ce projet, le Premier ministre semble vouloir ajouter un scandale démocratique et social. Il va de soi que cette façon de faire ne peut que créer de la défiance. 5 ans durant, nous avions subi une politique reposant sur une duplicité quasi institutionnalisée. Nous ne saurions accepter plus longtemps une écologie des mots qui, à l'aide de discours enjoués, permet de justifier des actes profondément scandaleux. Nous appelons solennellement et avec la plus grande fermeté le gouvernement à cesser les expulsions des opposants au projet d'aéroport. Nous appelons le Premier ministre à remettre en cause ce projet, qui aura une incidence significative sur le budget de l'État, un impact irréversible sur plus de 2000 hectares de zones humides et de terres agricoles et sur nos émissions de gaz à effet de serre. À l'heure des crises alimentaires, climatiques et énergétiques, à l'heure de l'effondrement des écosystèmes, nous ne cautionnerons pas un double discours qui tend à devenir une seconde nature des responsables politiques. Par cette déclaration solennelle, nous tenons à exprimer notre solidarité et à apporter tout notre soutien à celles et ceux qui luttent pour un monde vivable. Nous appelons l'ensemble des citoyennes et citoyens à participer à des mobilisations locales et ainsi répondre démocratiquement à une violence qui, pour être institutionnelle, n'en est pas moins illégitime. Donc voilà, c'est quand même un peu la bonne nouvelle du jour, c'est que les associations citoyennistes se commencent enfin à se bouger le cul.
Mais je veux dire, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais des bonnes nouvelles du jour, ils nous en tombent tous les jours, en fait.
Oui, il y a eu beaucoup de solidarité.
Que ce soit des messages de solidarité, que ce soit des actions en soutien à la ZAD, que ce soit, je veux dire, on a appris tout à l'heure qu'il y avait un local du PS qui a été saccagé à Arles avec une inscription qui faisait référence à la ZAD, ça nous fait plaisir. On a appris qu'il y avait une opération escargot qui s'était montée. Hier, il y a eu des dîners de soutien qui ont été faits à Barcelone, avant-hier à Bruxelles, et genre tous les jours, on nous envoie des messages. Et puis il y a des soutiens qui sont plus directs, qui sont des voisins. J'ai une histoire qui m'avait beaucoup touché de voisins qui nous racontaient qu'ils avaient voulu nous apporter du riz et des pâtes et qu'ils étaient tombés sur des barrages de gendarmes qui avaient voulu leur faire demi-tour. Ils auraient dit « Mais non, en fait, nous, on va donner à manger aux insurgés et c'est normal, il faut bien qu'ils mangent, ces gens-là. » Et ça, c'est quelque chose qui nous touche et que derrière cette opération militaire, il y a quelque chose qui nous rapproche en fait tous. C'est-à-dire que là où ils voulaient opposer les méchants squatteurs et squatteuses avec les gentils propriétaires terriens qui refusaient encore de vendre, en fait, ces distinctions-là, elles sont en train de disparaître. Aujourd'hui, sur le mur de la vacherie, il y a une banderole qui dit la résistance continue et qui renvoie à notre site internet, zad.nadir.org. Et vu d'ici, c'est quelque chose de fort, parce que c'est vrai qu'il y a des distinctions fortes et des différences politiques entre les opposants squatteurs, squatteuses, qui sont clairement dans une mouvance anticapitaliste assumée, et pour qui ce projet d'aéroport, c'est une manière de lutter contre ce projet, c'est une manière de lutter de manière plus générale contre la destruction de la planète au nom d'un système productiviste, et des associations plus citoyennistes, pour reprendre ton expression, comme la CIPA, qui sont plus sur des logiques un petit peu plus légalistes, de recours juridiques. Aujourd'hui, les distinctions, elles ont été complètement abolies. Et face aux expulsions, on est tous ensemble. Parce que fondamentalement, les gens se rendent bien compte ici que si nous, on part, en fait, il n'y aura plus personne et qu'ils auront gagné.
C'est ça.
La zone sera un désert.
Parce que, si j'ai bien compris, est-ce que donc vous avez des renforts, des personnes qui sont venues de l'extérieur pour vous aider à lutter depuis l'intérieur, à défendre la zone?
Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que nous, et ça c'est des choses pareilles qui sont consultables sur notre site internet, on avait lancé d'ores et déjà des appels à venir réoccuper la zone, parce que ça nous paraît pertinent de pas juste parler d'expulsion et de juste résister à des expulsions, mais de dire qu'il y a cette zone-là qui est en train d'être transformée en désert et qu'il faut l'occuper. Donc de toute manière, on invite les gens qui s'en sentent l'énergie à venir avec nous occuper, construire des cabanes et vivre ici. Parce qu'il ne s'agit pas de squatter, il s'agit vraiment de vivre sur un territoire en lutte. Et on appelle aussi les gens à venir nous soutenir. Il y a des gens qui sont venus pour deux jours, trois jours, une semaine, des semaines, rejoindre des barricades, faire de la cuisine, rejoindre des équipes médicales, faire du travail de communication. On soutient, Claire, à la lutte qui est en train d'être menée ici. Et puis, il y a aussi d'autres formes de soutien. Je veux dire, ça peut être des gens qui travaillent pendant la semaine, mais qui, le week-end, auront pris le temps de collecter sur un groupe de 15-20 amis du matériel de construction pour qu'on puisse déjà penser à construire des cabanes, de la bouffe et des choses comme ça dont on peut avoir besoin. Ça veut dire qu'il y a un espèce de truc où il n'y a pas de hiérarchisation entre des gens qui seraient physiquement en train de s'opposer à l'avancée de l'armée sur le terrain.
Et surtout que là, il faut connaître un petit peu plus les lieux et le terrain, je pense.
Donc vous dites qu'il y a quand même la possibilité que des gens qui ne veulent pas se trouver physiquement confrontés aux gendarmes peuvent venir
d'aider.
Vous aider en faisant la cuisine ou en faisant les constructions. Est-ce que, justement, je me posais la question, est-ce que venir vous faire du renfort, est-ce que c'est dangereux? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont moins dangereuses?
Non, très honnêtement, depuis le mardi 16 octobre, on a une équipe médicale qui est là en permanence, prête à intervenir. Et on a eu quasiment pas de blessés. Et les gens qui auraient pu être blessés, c'est des gens qui auraient été sur des barricades, là où les CRS s'amusaient à faire des tirs de grenades lacrymogènes à tir tendu. Et c'est des gens qui ont fait le choix d'être là à ce moment-là. Je pense vraiment qu'il y a des gens de tout âge et de toute origine qui viennent nous soutenir et qu'il n'est pas du tout dangereux de venir ici, en fait.
Parce que, en fait, pour nous qui nous sommes... Enfin, Cyril était allé, et puis je crois qu'il y en a aussi pour le camp climat. Donc, il y en a qui connaissent le terrain.
On est venu cet été aussi.
Ils sont venus. Mais pour les gens qui... je pense, par exemple, à des gens qui habitent à Nantes, par exemple, qui sont... quand même prochainement concernés par la question, même si finalement, comme ils ont dit aux conférences de presse aujourd'hui, ce n'est pas juste une question locale, c'est vraiment une problématique globale et nationale, parce qu'on ne parle pas juste de construire un aéroport pour ces gens-là, les conséquences de cet aéroport ont quand même des retombées pour toute la France, et puis même pour toute la planète. Donc voilà, c'est une petite entre parenthèses. Mais pour les gens qui ne sont jamais venus sur ces terrains-là, c'est assez grand, il y a des endroits où les gens peuvent quand même fonctionner. C'est la question que je me pose. Comment vous vous organisez pour manger, pour dormir, tout ça? Maintenant que les maisons sont détruites, comment ça se passe?
Il reste pas mal de cabanes encore.
Il reste plein d'espace. Et pour dire la chose très franchement, moi, je crois que j'ai rarement aussi bien mangé que ces derniers jours.
C'est ce qu'un autre copain me disait mardi aussi. Là, il n'y a même plus besoin de récup. Il y a tellement de soutien, de bouffe qui vous arrive que...
C'est extraordinaire. Et c'est vrai que parce que fondamentalement, au-delà de lutter contre un aéroport, on lutte contre le monde qui va avec. On lutte contre cette espèce d'aménagement urbain, autoritaire... Parce que derrière l'aéroport, il y a quoi? Il y a l'idée de construire au nord de Nantes un aéroport qui permettrait de faire une espèce d'énorme mégalopole dégueulasse, toute bétonnée, qui rejoindrait Nantes, Saint-Nazaire et Rennes. C'est un projet complètement cauchemardesque. Donc nous, si on est en lutte, c'est contre cet aéroport, mais aussi vraiment contre le système capitaliste qui va avec. Et que, au-delà de lutter quotidiennement contre ce projet d'aéroport, on vit aussi tous les jours une alternative concrète. Ça veut dire que les cabanes qu'on construit, on les construit avec du bois de récup, avec des choses qu'on récupère à la déchetterie. Et on ne file pas un sou à EDF parce qu'on a des panneaux solaires. Alors, ce n'est peut-être pas encore la meilleure solution, mais on commence à apprendre à construire des éoliennes aussi. Et puis, on plante nos légumes. Et c'est vrai que l'un des lieux qu'on a vraiment envie de défendre symboliquement, c'est...
Le sabot, bien sûr. Ouais.
C'est le sabot, voilà. Ouais. Donc, et on a un boulanger, on a une boulangerie qui continue à tourner, hein, perturbable, et qui emmerde le pouvoir en place en faisant du pain à prix libre avec de la farine bio tous les lundis et tous les jeudis.
Les CRS, ils n'ont pas pu saboter ça.
Bah non, ils n'ont surtout pas pu rentrer là, sur cette zone-là. Enfin, ils ont été ça a été un très grand moment. Moi, là, franchement, chapeau pour avoir tenu au sabot.
Alors concrètement,
j'avais un peu de mal à y croire. Hein. Moi, je pensais que c'était plié dans l'après-midi le mardi. Là.
Donc, si les gens veulent vous aider, qui soutiennent votre... Pardon, excusez-moi. Si les gens qui nous écoutent soutiennent cette lutte contre l'aéroport, contre le système que ça représente, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Bon, bien sûr, on peut faire passer les messages, passer les infos qui, quand même, ont du mal à passer dans la presse grand public. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'on peut vous aider à continuer la lutte?
Les moyens, ils sont...
multiples.
Mais donnez-nous quelques exemples pour parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont ensuite en parler, et puis les gens qui veulent se mobiliser d'une certaine manière. Deux, trois exemples.
Et ben, les gens qui sentent l'énergie de venir sur place pourraient pourrait imaginer venir nous apporter un petit peu de matériel pour commencer à reconstruire des cabanes. Parce que là où un truc où le préfet n'a pas tort, c'est que l'hiver est pluvieux et un petit peu froid dans le coin. Et que si on veut rester, il va falloir qu'on ait à nouveau des maisons, parce qu'on ne va pas pouvoir squatter chez les voisins et les voisines en permanence.
Des tentes ?
Ouais, non.
Non, non. Je pose la question concrètement, parce que on peut pas deviner.
Non, c'est vraiment reconstruire. C'est vraiment
de la corde, de la corde, de la bâche plastique, des clous, des marteaux. Il y a des manières infinies de nous aider à reconstruire des cabanes. J'ai même pas envie de dire de nous envoyer des sous parce que
il n'y a pas de magasin dans la forêt.
On dépense pas d'argent. Je veux dire, on a. Et ce n'est pas les questions qui nous intéressent le plus, mais encore une fois, les questions logistiques, elles ont été réglées par la solidarité de manière évidente.
Quand même, vous aviez eu un jardin potager, donc tout ce que vous avez fait pousser à manger, c'est détruit là. Vous ne pouvez plus même manger ce que vous avez.
On a réussi à en enlever le maximum, et on a tous les jours des paysans, des paysannes du coin qui arrivent avec du pain, avec des légumes, avec des œufs. Et on n'a jamais eu autant de nourriture sur la ZAD. C'est incroyable.
Bon, on va inviter tous les sans-abri pour manger là-bas. Donc, si on comprend bien, le but, c'est quand même vraiment de rester le plus longtemps possible, empêcher les bétonneurs d'arriver et d'agir sur cette zone le plus longtemps possible. Peut-être que plus il y a du monde là-bas, moins cet aéroport a de la chance de se construire. C'est ça ?
Carrément, moi je pense que ce qui nous impose avec cette logique d'expulsion, c'est un rapport de force. Et dans le rapport de force, plus on sera de gens à venir vivre sur place, et plus on sera fort. Et encore une fois, moi je veux vraiment insister sur le fait que la lutte contre l'aéroport, elle est importante pour nous, mais que c'est pas une finalité. Que la finalité, c'est de se dire que à un moment donné, le système, il est tellement dégueulasse qu'on peut pas juste continuer à vivre dedans et fermer les yeux et croire que ça va passer. Ça va pas passer. Le système, il va pas s'écrouler tout seul. Il faut vraiment l'aider. Et que, à minima, si on peut pas faire la révolution tous les jours, et peut-être pas demain, et peut-être pas après-demain, eh ben, on peut réussir à lui en donner le moins possible. Et que, pour nous, sortir du système productiviste, arrêter de dépenser de l'argent, être solidaire entre nous, bouffer les légumes qu'on fait pousser, c'est comme une espèce d'évidence. C'est un truc qui nous quittera pas. Et je veux dire, il pourrait réussir à nous expulser physiquement tous de la zone. Ce qu'on a créé ensemble de réflexion écologique, de liens de solidarité, c'est des trucs qui ne pourront jamais nous enlever, en fait.
C'est
jamais,
clair.
Quoi. Je veux dire, les gens qui vivent ici, ils vont pas retourner mettre une cravate et prendre un boulot de cadre dans une banque. C'est juste pas possible parce que, en fait, on réalise combien la vie elle est plus belle quand on n'a pas besoin de courir après les thunes pour dépenser des thunes, en fait, quoi. Et que la majorité des choses dont on a besoin concrètement, on peut les avoir gratuitement, on peut les avoir par l'échange.
Voilà.
Ça me fait penser quand même, juste avant que les CRS sont arrivés, vous étiez en train de vivre là-bas avec des jeunes enfants, avec des familles, des gens qui réellement vivaient là-bas. Ce n'était pas juste une expérience par des très jeunes. Pas des gens, c'était vraiment des familles, des personnes qui vivaient une vraie. Enfin, c'est ce que. Voilà. C'est vraiment une réelle option pour toutes les personnes de vivre de cette manière-là.
Plus qu'une réelle option, c'est devenu une évidence, en fait. Et peut-être que c'était la crainte aussi des gens qui nous ont vus arriver sur la zone ici et qui ont un petit peu peur, hein, faut l'admettre, de voir des squatteurs et des squatteuses arriver sur une zone rurale comme ça. Mais aujourd'hui, le terme de squatteur, il est plus utilisé par personne, en fait, ici. On pourrait se définir comme des occupants ou des occupantes de la zone. Et même de manière plus simple, on est des habitants.
Des habitants. Moi, j'ai vu un petit message d'une paysanne qui s'appelle Sylvie sur le site paroledecampagne.blogspot.com qui disait clairement, elle parlait de nouveaux habitants.
Voilà,
elle savait, elle, que c'est dans votre camp que le courage brillait. Mmh. Et pas dans celui de Jean-Marc Ayrault qui, après avoir lancé cette opération, s'est barré je sais plus où, très loin.
Ouais. Et on a eu des retours des voisins et des habitants qui résistent, qui étaient magnifiques, des gens qui nous ont dit mais Mais si vous n'étiez pas venu vous installer ici, ben, nous, on n'aurait sûrement pas trouvé le courage de refuser de vendre. On n'aurait peut-être pas trouvé le courage de rester parce qu'on se serait senti tout seul. Et que pour nous, il y a aussi ce truc qui est très fort de se dire, ben, on vient habiter sur une zone et on découvre des gens. Et pour des gens qui viennent de milieux souvent anti-autoritaires, anarchistes, c'est une expérience extraordinaire, en fait, d'arriver à partager nos envies d'expérience anticapitaliste, autogestionnaire, avec des gens qui n'ont pas forcément la même culture politique que nous.
Ouais. J'aurais vachement envie, mais on en refera plein. On se rappellera. On va continuer là-dessus. On doit rendre l'antenne. On est un petit peu à la bourre pour une émission musicale après.
Il y a pas de souci. C'était un vrai plaisir de parler avec vous en tout cas.
Voilà. Et puis surtout bon courage, tenez bon, on sera là pour la manif de réoccupation et puis voilà.
Et ben super. Et donc moi justement sur cette manif de réoccupation, on va en reparler vendredi et probablement à partir de là, on va
la date sera annoncée vendredi soir. Ouais.
Sur une date, voilà, donc il faut suivre sur zad.nadir.org. C'est là-dessus qu'on fait passer les informations. Et je pense que c'est un truc qu'on fait tous ensemble. C'est pas juste nous qui sommes peut-être un petit peu plus au front que d'habitude, qu'ils ont le travail et qu'elles ont changé le système. C'est tous ensemble qu'on va faire ça.
Bah, merci beaucoup. Et puis là, on doit vraiment l'antenne, je suis désolé.
Il n'y a pas de problème.
Salut, ciao.
Merci beaucoup. Et juste avant de passer l'antenne, je voulais juste annoncer un message du collectif Île-de-France qui soutient la ZAD, qui est un message de dernière minute, pour annoncer le rassemblement en soutien à la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, qui va se passer samedi 27 octobre 2012 à 14h à Paris, devant le métro Notre-Dame-des-Champs. toutes les infos sont sur demosphère.eu. Et voilà, on vous soutient et on continue.
C'est super.
Et puis surtout, tenez bon.
Merci. Ouais, on va pas bouger d'ici, ne vous inquiétez pas.
Ok, merci beaucoup.
Allez, à bientôt.
On passe l'antenne à
Musique Antille.
Merci beaucoup.
Allez, salut.
Salut.
Alors que le climat est déréglé et que le pétrole vient à manquer, ils veulent faire voler plus d'avions, couler toujours plus de béton. Sur la ZAD Notre-Dame-des-Landes, nos vies ne sont pas à vendre. Les vaches, les oiseaux, les tritons valent bien plus que leur cotation. Alors que la crise sévit dehors, héros paye son aéroport. Il envoie les flics et les camions, pour Vinci ordonne les expulsions. Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, nos vies ne sont pas à vendre. Les chèvres, les moutons, les écureuils valent bien plus que leur portefeuille. Chili, Malaisie, forêt, crime, qui Vinci veut bétonner la vie. Partout chez nous sur cette terre, nos luttes n'ont pas de frontières. Sur la ZAD Notre-Dame-des-Landes, nous inventons notre monde d'entraide et d'autogestion, bienveillance et jubilation.